à tous et bienvenue sur Istasia.fr pour notre podcast Bilan 2015, un podcast spécial puisque nous n'allons pas parler que de cinéma asiatique, mais consacrer la seconde partie de l'émission à l'année cinématographique 2015 dans son ensemble. Afin de présenter les nombreux intervenants autour de la table, je propose un premier tour de table introductif pour cette première partie istasienne, au cours de laquelle je vais vous demander à chacun de choisir un événement qui vous a marqué dans l'année 2015. Je vais commencer par notre invité, Gaël de Cinématrack. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Alors j'ai scruté à la loupe le top 10 de Cinématrack et je n'y ai vu qu'un seul film asiatique, c'est Material Splendor. Est-ce que tu partages cet engouement et est-ce que c'est le film asiatique de 2015 pour toi?
Non.
Ça mérite d'être clair.
Non, là, je me suis fait un top 10 des films asiatiques. Il fait partie des films à soutenir. Mais pour moi, j'étais un peu. J'ai trouvé que c'était un petit film.
On va en reparler de Pitch Up Moon, c'est cool. Voilà. Alors, quel serait l'événement pour toi de cette année asiatique en termes de cinéma?
Moi, c'est Jazz Anke. C'est vraiment le. Je l'ai vu à Cannes et pour moi à l'époque c'était la Palme d'Or. Ensuite, j'ai vu d'autres films et je pense que même.
Dipan, t'es un petit peu déçu pour le coup.
Mais c'est un film français.
Il y a eu la Palme d'Or, on commence les digressions.
Ah ouais, voilà, le Jazz Anke pour moi avait la Palme d'Or pour moi.
On va reparler donc du Jazz Anke aussi. Elvia, je me tourne vers toi car la dernière fois sur le cinéma japonais tu avais parlé en dernière et donc là je te laisse la parole. Pour toi, donc, quel était l'événement? C'est pas forcément un film qui t'a le plus marqué en termes de cinéma asiatique cette année.
Merci Victor de me faire passer en deuxième. J'ai trouvé qu'on avait une année pas si mal que ça en fait, même si les découvertes on les a peut-être plutôt fait en fin d'année. En début, je pense qu'on était plutôt pessimiste. Et puis, plus les mois sont passés, plus on s'est dit que finalement, l'année, en termes de cinéma asiatique, était plutôt pas mal. Voilà, qu'est-ce que je te dise.
Très bien, on va développer tout ça. Je vais continuer le tour de table. Bonjour Samir.
Bonjour.
Alors toi, si tu devais retenir un événement de cette année 2015.
Dans le cinéma asiatique.
Dans le cinéma asiatique, ouais. C'était le premier.
Comme Gaël, pour moi, ce serait très tardivement parce que le film, je crois qu'il est sorti en décembre, je pense. C'est le film de Jazz Anke, Au-delà des montagnes. J'aime beaucoup ce que fait Jazz Anke, mais j'ai jamais été. C'est vraiment ce film m'a beaucoup ému. Et d'ailleurs, je pense même être le plus sincère possible, de cette année 2015, c'est le seul film où je suis sorti de la salle très ému, vraiment ému aux larmes. Ça m'a beaucoup perturbé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur film asiatique, mais aussi le meilleur film du cinéma en 2015. Donc pour moi, c'est gros événement cinématographique, c'est celui-là.
Parfait. Bonjour Marc.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien.
Et alors, comment as-tu vécu cette année asiatique 2015?
Plutôt moyenne au niveau des sorties. Mais il y a quand même quelques films qui sont sortis du lot. On en reparlera au cours de la soirée. Comme événement asiatique, je retiendrai l'année sous notion avec 6 films sortis, dont 3 ont été quand même diffusés en France, en festival. Donc c'est plutôt sympa de voir au moins la moitié de ces films qui sont sortis en festival.
Et en plus, on a eu des sorties DVD de Tokyo Tribe et de Why Don't You Clean Hell, qui sont sorties cette année. C'est vraiment aussi l'année sous notion. On y reviendra. Martin, bonjour Martin.
Oui, bonjour.
Comment ça va?
Ah, impeccable.
T'as passé une bonne année asiatique en termes de
cinéma? Moi, je suis comblé, vraiment. L'événement, c'était pour moi, c'est l'année France-Corée. Donc voilà, qui a démarré en septembre et qui est toujours en cours. Et donc, on a eu droit, d'une part, aux formes des images, à aussi l'hypnotique qui nous a permis de voir un panel de 80 films, tout centré autour du thème de Séoul, la ville, quoi. Et puis ensuite, il y a eu le festival du film coréen à Paris, qui a fêté ses 10 ans, qui nous a réservé une très belle année d'anniversaire, avec une excellente cuvée. Donc là-dessus, on a été vraiment gâté, et puis pour couronner le tout, l'intégrale, la quasi-intégralité de la filmographie de Yung Kwon-taek à la Cinémathèque. Donc voilà, j'en suis à 68 sur les 74 pour l'instant. Oui, et c'est vraiment passionnant.
Parfait. Bonjour Justin.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu as passé une aussi bonne année cinématographique en termes de cinéma asiatique?
Oui, une bonne année. Donc, soit autant sur les réalisateurs installés, que ce soit Tsuyar, que Jae Sang-kae, Kore-eda, enfin, on a eu les grands réalisateurs reconnus depuis plusieurs années. Ils ont offert des bons crus. Et puis, au niveau des. On a eu pas mal de nouveautés aussi, plutôt en festival. C'est peut-être ça qui est dommage, il n'y a pas eu d'auteur qui a eu droit à une sortie sale, sauf peut-être Ardell, le réalisateur d'Ardell, mais sinon les nouveaux talents, ça a plutôt été découvert en festival, mais sinon non, c'était plutôt...
Oui, on a eu juste effectivement le Ardell comme premier film coréen, ouais. Et Seafog, ouais. Hello, qui était également un premier film, mais sinon c'est effectivement des noms très connus qu'on a retrouvés toute cette année.
Il n'y a pas vraiment de découverte...
Enfin, en festival, ouais. Quoi.
Non, dans les sorties. Ouais.
Surtout, ils étaient sortis en festival l'année précédente, tous ces deux films. Donc, ouais.
Et au niveau de l'événement, serait peut-être la ressortie des deux King Wu, donc Dragon Inn et puis Touch of Zen, quand même, on l'a vu dans des conditions exceptionnelles, voilà, de nouvelles copies restaurées, vous ne les avez jamais vues comme ça.
C'est bien soupir parce qu'il a oublié les ressorties du
King Wu. C'est tout soupir. Toujours la vécu enfin.
Absolument.
On l'a vécu ensemble, mais pas point final, on l'a vécu ensemble, virgule, c'est deux sorties cinématographiques.
Je te mets là-dedans.
Bonjour Elias.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très très bien.
Alors cette année 2015 en termes de cinéma asiatique pour toi?
Pour moi c'était une très bonne année, en fait, qui était plus une année où, comme c'est un peu l'année où je suis vraiment entré à Eastasia, enfin, j'ai fait des podcasts, etc., j'ai fait plein de critiques, c'était plus une année genre d'approfondissement de ce que je connaissais déjà, donc à part quelques sorties, dans le Brass et Takoul dont on parlera tout à l'heure, c'est plus des...
Une petite polémique déjà lancée par Gaël tout à l'heure.
C'est plus des approfondissements, de vieux films qui m'ont marqué dans l'année. Par exemple, j'ai vu Typhoon Club il n'y a pas longtemps. Après, voilà, c'est des films qui n'ont qu'un rapport avec l'année, mais qui sont quand même dans mon année à moi.
Parfait. Donc, ouais, c'est Geoffrey. Yo. Alors, bonne année cinématographique également.
L'année 2015, c'était une très bonne année. Enfin, les auteurs qu'on a d'habitude en France ont confirmé leur statut, comme d'habitude. Et on peut quand même dire encore une fois que c'était l'année d'un homme, Sonocian, qui a sorti 7 films. Enfin, 6, on a réalisé 7, dont 3 sont arrivés ici et dont 1 était une claque dans le cinéma japonais, quand même, il vient encore bousculer le cinéma japonais. Et en France, je dois dire justement que la ressortie, la sortie de Touch of Zen, justement, était assez intéressante, fascinante. Et la sortie de Jason Kuh à la fin de l'année, justement, a fini l'année en beauté.
Parfait. Salut Jérémy, comment ça va?
Ça va, écoute.
Alors, bonne année cinématographique également pour toi.
J'ai pas eu beaucoup de films cette année, mais je suis quand même super content de voir que Norte est enfin sorti en salle.
C'était inespéré.
On a eu la surprise et c'est un immense chef-d'œuvre et vraiment content de le voir sorti en France. Et puis, je retiens aussi Wong Bing qui nous refait encore un chef-d'œuvre.
À la folie, donc c'est sorti en tout début d'année.
Voilà, et qui est oubliable et qui... Et qui est vraiment. C'est mes deux gros coups de cœur de l'année en fait.
Et enfin Nicolas. Salut Nicolas.
Bonjour.
Alors ton année cinématographique?
Plutôt bonne, pareil. Beaucoup de festivals cette année. Une qualité du cinéma asiatique assez haute quand même dans tous les pays à peu près qu'on a pu visiter tout le long de ces festivals et puis même dans les films qui sont sortis cette année. Je retiens, moi les trois que je retiens surtout, c'est le nouveau Kore-eda, notre petite sœur qui m'a vraiment. Ému, le Happy Chapion Erasatakul, parce que c'est pas forcément un réalisateur que j'adore d'habitude, et là il m'a vraiment cueilli. J'ai trouvé toute la mythologie de son film assez fabuleuse. Et le pareil que Jérémy à la folie, Wong Bing, qui confirme à mes yeux que c'est peut-être le plus grand, à l'heure actuelle, le plus grand documentariste du monde.
Parfait, je pense que tout le monde s'est présenté et a donné quelques indices sur ses goûts et les temps forts de l'année cinématographique en termes de cinéma asiatique. Ce que je vous propose dans une première partie, c'est de parler des 10 films choisis par la rédaction, qui résument un peu cette année 2015. On va passer quelques minutes sur chacun des films, et ensuite d'avoir un débat assez libre sur ces films, sur les oubliés, sur l'état du cinéma asiatique en France et en Asie. Donc on va les dérouler dans l'ordre inverse, en fait, on va aller du 10e au 1er. Le numéro 10, c'est Taxi Téhéran de Jafar Panahi. Si j'ai bien regardé ton top, Gaël, il me semble qu'il figure quelque part en 7e position dans ton top général. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film ?
Ben, en fait, ça. Non, mais
ça t'a fait rire.
La comédie de l'année.
Non, je suis la comédie de l'année. Je suis très content en fait d'être invité à ce podcast de l'Estasia. Mais c'est vrai que je fais face à des spécialistes du cinéma asiatique.
Ensemble.
Et c'est vrai que l'Asie hein, au sens large. Et c'est vrai que moi, pendant un temps, j'ai fait un rejet assez massif du cinéma iranien. Voilà. Pourquoi ?
On attend la suite.
Les auteurs qui étaient mis un peu en avant, les sujets qui étaient traités, qui ne m'intéressaient pas.
On a découvert Kiarostami, par exemple, cette nouvelle vague des années.
Non, quand on a découvert Kiarostami, moi j'aimais bien, enfin à l'époque. Hein, mais c'est juste qu'à un moment donné, les films qui étaient un peu mis en avant, c'était pour traiter des côtés un peu, la dictature, régime autoritaire, le problème de. Enfin, moi de ce que je. Mais c'est vrai que j'ai fait un rejet, donc c'est pas. Je ne suis pas du tout spécialiste de...
Et qu'est-ce qui t'a séduit alors dans le film de Panahi
Étonnamment, le côté un peu comédie, c'était assez drôle. Je m'attendais à un film assez austère et assez sur la situation de Panahi, vu qu'il est assigné à résidence et il ne peut plus faire de cinéma en théorie. Il arrive toujours à faire du cinéma, donc c'est assez épatant. Et il fait rire avec sa situation sur le côté, les situations un peu
ubuesques. Pour les réalisateurs qui ont du mal à faire leur film là-bas, par rapport à la censure qui est exercée dans le pays. Quoi.
Voilà.
Donc c'est drôle.
Voilà, là-dessus, il arrive à... sur un sujet assez dramatique et il arrive à faire donc c'est et puis c'est l'utilisation de l'image aussi il y a différents façons de esthétiquement j'ai trouvé ça super beau avec très peu de moyens
le film se passe intégralement dans un taxi donc avec des caméras de surveillance on en avait parlé
à sa sortie
et c'est un beau succès également en France d'ailleurs il a son film qui avait plutôt bien marché et trouver son public. Quelqu'un va rajouter quelque chose
Il était très bien distribué aussi, il faut le dire. C'est rare justement de voir des auteurs comme Panahi distribuer d'habitude, ses films, ils sortent dans la...
Après, c'est aussi du fait qu'il a eu le Grand Prix à Berlin.
Enfin, joue quand même.
Oui, ça joue quand même. Enfin, c'est pareil pour
Berlin. Mais même maintenant, il y a plus de films. Tu vois complètement rien à voir, mais par exemple, 99 Homes, il y a eu le Grand Prix à Deauville, il sort en e-cinéma.
Mais Deauville,
maintenant, c'est même. Non, c'est pas pareil. Même mention politique aussi.
Oui, il y a une dimension politique qui est très importante.
D'accord, ouais. Mais même maintenant, il y a des films qui ont des dimensions politiques, qui ont des ours d'argent, des ours d'or, et qui ne sont pas très bien distribués. Celui-là a vraiment une
chance. La dimension politique représentée par le réalisateur, en fait, pas forcément par le film.
Parce que le réalisateur, ça fait déjà 3-4 films qu'il est là dans cette.
Oui, le réel en France, il est vu comme un martyr. On est un peu long à la détente en France, en fait.
Moi, c'est vrai qu'il y a cette dimension un peu, par rapport à l'Iran, effectivement, on va mieux distribuer un film comme ce film-là.
Bien sûr, oui.
Alors que, effectivement, sur les histoires de sur Primes, forcément, on en parle moins.
Oui, mais on a une dimension
politique. Il y a une envie de il y a une
puis ça marche pas en avant.
Il faut savoir aussi, on a quand même, en tout cas à Paris, je suis pas sûre, dans les autres villes, on a quand même une forte minorité iranienne aussi, en fait, en France.
Qui a fui le.
C'est pas ça que je veux dire, c'est que la relation, en fait, entretenue avec l'Iran, en fait. Par ceux qui ont rejeté.
Je pense que ça marche par mode,
le possible aussi, mais je pense qu'on a quand même un lien particulier qu'on n'a pas forcément. En fait,
le paradoxe, si je ne me trompe pas, c'est qu'il y a un film de Mac Malbaf qui est sorti à peu près en même temps, dont j'ai oublié le titre, Le Président. ou
je sais plus,
mais qui est passé, et qui est passé complètement inaperçu et qui a été une catastrophe en termes d'entrée. Donc c'est vrai qu'il y avait quelque chose de l'histoire du cinéaste. On en avait parlé.
Mais pourquoi c'est passé inaperçu? Parce que comme on le dit ici, Panahi, comment dire, c'est un cinéaste important et intéressant. Le souci, c'est que très souvent, majoritairement, ceux qui font le cinéma en France et ailleurs ne voient pas uniquement sa matière cinématographique. Ils voient aussi ce qu'il traîne derrière lui, c'est-à-dire malheureusement toute cette censure, voire même à un moment interdit de faire des films, interdit de sortir de chez lui. Il y a eu un moment ça. Donc, ils prennent position pour cette personne-là. Mac Malbaff, c'est très compliqué, Mac Malbaff. Déjà, il y a le père, Morsen Mac Malbaff, qui était de la même génération qu'Abbas Kiarostami, puis ensuite il y a eu la fille, puis ensuite il y a eu sa femme. Enfin, c'est très compliqué tout ça. On ne sait pas de quel bord ils sont. On préfère ne pas forcément se reposer sur eux, parce que c'est très incertain. On préfère se reposer sur quelqu'un qui nous a montré qu'en fait, il n'était pas là. Même quand il est invité, il n'est pas là. Donc c'est très très particulier. Jafar Panahi, c'est un peu ce que Kiarostami était dans les années 90. Là, c'est autre chose. Donc moi, Taxi Téhéran, j'aime beaucoup. C'est un film qui me plaît énormément.
Les fondateurs cinématographiques.
D'abord, parce que c'est un formidable documentaire aussi. Monteur. Parce que pratiquement, c'est pratiquement de la fiction. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est aussi que... je fais du cinéma à travers ma propre fenêtre, mais pas la fenêtre de mon appartement, celle d'un taxi. Et je regarde un peu comment est le monde. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils se sont toujours obligés, ils sollicitent toujours la fiction, le noyau fictionnel, pour parler de cela. On aurait pu voir un cinéaste de cette trempe-là, avec la vie qu'il mène, faire un documentaire. C'est quelque chose de très récurrent dans cette cinématographie, dans cette région. Non, ils préfèrent continuer à faire de la fiction. Là, je trouve que c'est un formidable doigt d'honneur à ceux qui essaient de lui faire fermer sa gueule, comme on dit grossièrement. Donc voilà, enfin, c'était pour rebondir là-dessus et dire que oui, effectivement, Taxi Téhéran, je trouve ça vraiment...
Bon, en tout cas, je suis content d'avoir une comédie en 10e position. On va continuer dans la France rigolade. il est difficile d'être un dieu.
C'est vachement drôle, quelque part.
D'Alexis Guillermann.
C'est super drôle.
Donc, film fleuve de plus de 3 heures. Jérémy, un film d'une telle longueur, c'est forcément pour toi.
T'avais aimé.
Dans mon top 10 de l'année, c'est une expérience le truc.
On a vécu ensemble.
On a vécu ensemble, ouais, on était.
Hein? Il est de toutes les expériences.
Mais ouais, il y a quelque chose, quoi, c'est organique, c'est sale, il était plongé dans la merde pendant 3 heures,
effectivement.
Et t'as froid, et t'as peur, et tu te dis, mais c'est qui ces gens et qui gueulent tout le temps, et qui se tapent dessus, qui se crachent dessus, qui s'envoient des merdes à la gueule. C'est une expérience visuelle, c'est une expérience sonore, olfactif, t'as tout qui t'arrive à la figure.
Quel livre ajouter quelque chose sur Guillermo?
Je me rappelle très bien, quand j'avais parlé du film, j'avais dit c'est un film qui chie.
Voilà, ben c'est ça. Ouais.
C'est exactement ça. Ouais, je l'ai revu en DVD et c'est assez. C'est toujours aussi un
peu. Visuellement, c'est quand même.
Concrètement, c'est une classe. Moi, j'ai vu deux fois. J'ai vu être en festival où j'ai dormi 1h30 sur les 3 heures. Et ensuite, en vrai, dans une salle où j'ai vu en entier. Et c'est un film qui chie, pour moi, c'est un film à chier en fait. Pour moi, c'est concrètement. Je pense que c'est le pire film de l'année si Malick n'était pas sorti. Bon, c'est un autre débat.
Mais t'es allé le revoir quand même, hein. Tu l'avais vu à l'étrange.
Ah oui, il avait dormi.
Parce que j'ai dormi 1h30 sur les 3 heures. J'ai fait, tiens, ça se trouve, j'arrête un truc. Tout le monde dit que c'est génial. Ça se trouve, c'est vachement bien en fait. Et bah non. Enfin, moi en fait, j'arrive pas. Enfin, après, voilà. Enfin, je pense que c'est juste un truc de goût personnel. Que le type de cinéma que j'aime bien, c'est l'inverse total de ce type de cinéma. Mais je trouve en fait un film sans scénario de plus de 3 heures où concrètement il ne se passe pas plus de choses que des gens qui se crachent à la figure et avec des fluides qui dégoulinent sur des visages. Je trouve ça assez peu intéressant, assez peu engageant et surtout. En fait, c'est un film extrêmement hostile qui donne.
C'est fait pour ça.
Mais voilà, c'est personnel. Je ne sais pas ce qui me plaît et je ne comprends pas pourquoi, mais j'arrive pas à comprendre l'attrait en fait de ce film.
C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi un film sans scénario? Ça veut dire quoi un film sans scénario? Je comprends pas.
C'est un film qui pour moi en fait n'a pas une ligne conductrice. J'aime beaucoup de films comme ça.
Une ligne qui
permet de t'accrocher au film. Pour moi, même quand un film m'ennuie, quand un film, il y a quelque chose qui me permet de m'y accrocher. Là, je pense que quand je dors une année sur un truc de 3 heures, c'est vraiment quelque chose qui vient de m'accrocher à film.
Mais... on va y revenir, je pense, parce que justement, ouais. C'est intéressant par rapport à d'autres films que tu as aimés, dont La Pitch à Poum, c'était cool. Justement, donc on pourrait faire le même reproche voilà, parce que la ligne narrative.
Non, mais c'est différent.
Oui, mais en tout cas, c'est pas ça qui va t'accrocher au film.
C'est pas linéaire.
Le War Racista Cool, c'est comme un rêve, c'est comme une bonne sieste au soleil.
Ça s'accroche pas, voilà.
Là, c'est juste qu'on fout dans un sac et on le jette dans un ravin et tu le par les
convois. Non, Nicolas. Le problème que j'ai avec. Moi, j'ai pas détesté. Alors, j'ai pas pris du plaisir devant le film, mais j'ai pas détesté le voir. J'ai trouvé que c'était une expérience assez intéressante. Mais je trouve que le problème, c'est qu'on en fait une 3 tonnes sur ce film. Il était difficile de perdre. Je trouve qu'il y a juste une seule idée de mise en scène.
On n'en parle pas assez, justement, je trouve.
Il est pratiquement invisible, si on veut parler de cela. Il est pratiquement invisible dans les différents top 10 que j'ai pu lire ici et là, des sites, mais aussi des...
En fait, les critiques ne l'ont pas forcément vu.
Mais oui, aussi.
Un film qui a été énormément
vu. Comment des critiques ne voient
pas le film ? Moi, le problème que j'ai avec ce film, en tout cas, c'est que je pense, j'ai trouvé qu'il n'y avait qu'une seule idée de mise en scène qui a été exploitée sur 3 heures. Alors, c'est peut-être.
Et c'est quoi
l'idée ? C'est
de faire un espèce de faux documentaire, de filmer ça comme un faux documentaire, et de suivre en plan séquence des gens qui crachent. Mais c'est toujours la même focale, toujours le même cadre, toujours les mêmes mouvements. Mais jamais ça change. Il n'y a pas d'autre signification dans la mise en scène que suivre des gens.
Qui crachent.
Mais jamais, ça change jamais de point de vue ou de trucs comme ça, jamais.
En fait, la caméra justement épouse certains points de vue et trucs comme ça, et même des fois la caméra a l'air de respirer en fait, de sortir des bruits de la caméra.
Ça fait partie, mais c'est ça en fait, c'est juste, on a l'impression que c'est juste un cadreur.
Oui, mais c'est un œil dans un monde en fait.
Comme un faux documentaire où il y aurait eu un espèce de personnage de cadreur qui suivrait donc cette espèce de
fou. Oui, mais à la base, c'est un récit de science-fiction en fait.
La caméra fait intégralement partie du film en fait.
Bah oui, mais c'est un peu comme
Samir pour conclure.
Ce qui est marrant, c'est que ce que tu viens de dire sur le film, c'est ce qu'on a reproché à Pasolini quand il a fait Salo, Les 120 journées de Sodome. C'est exactement la même critique, à savoir une seule idée de mise en scène. Pas de scénario, c'est pas linéaire, etc. C'est exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que l'histoire a donné raison à ce film-là en particulier. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le film de German, c'est que c'est un film qui redonne au spectateur ses lettres de noblesse. Quand on va voir un film, il faut absolument faire des concessions. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est voilà, il a une manière de voir le monde qui est une manière très foutraque et ça me renvoie aussi à ma propre société. J'aime beaucoup voir ce film parce que j'ai toujours cette impression d'être, chaque plan, chaque séquence, de ne pas me reposer sur mes propres idées, d'être déstabilisé. C'est ça qui me plaît. Et je ne vois pas qu'un film qui crache ou qui chie ou quoi que ce soit, je vois beaucoup plus que cela. Je vois qu'il y a une espèce de poésie très macabre dans ce film qui me plaît énormément. Qui m'intéresse. Après qu'il n'y ait pas de scénario, moi je pense que s'il y a un scénario, un scénario ça peut être nous qui sommes, voilà, séquence 1, on est en train de parler de cinéma, c'est un scénario. Après c'est comment on va, maintenant si tu attends d'un scénario qui est un début, un milieu,
du tout.
Là ça devient autre chose, c'est de la thèse.
C'est plus que j'ai pas compris l'attrait qui ne touche pas du tout. Vous venez filmer acheter, c'est pour rebondir, mais c'est juste le fait que c'est un film que j'ai pas compris et que je pense pas qu'il me parle pas du tout.
Après, tu l'as très bien dit, c'est quelque chose, il y a une sensation. Soit on l'a, soit on l'a.
Que moi j'ai pas eu du tout en fait. J'ai pas accroché à ce film, mais c'était une.
Mais c'est normal, enfin, je trouve que c'est un film qui est quand même difficile.
Bah non, mais c'est ça. En fait, il veut te mettre mal à l'aise et il veut te maltraiter.
Voilà, mais c'est intéressant, mais par contre, ça t'accroche pas. Moi j'ai rejeté ce film et je le rejetterai, je pense.
Et c'est normal qu'il divise. Et pour d'autres raisons, notre film qui est en 8e position. A aussi divisé la rédaction, on a eu plusieurs débats, mais finalement il se retrouve dans notre concept, c'est la bataille de la montagne du Tigre de Suerk. Je vais laisser la parole à Martin ou à Justin, qui est les plus ardents défenseurs, je pense, de ce dernier Suerk qui est sorti cet été. Bon, ça va.
Bah, pour moi, ça reste quand même le retour confirmé. Ça fait déjà depuis son deuxième DVD qu'on sait qu'il est de retour. Il recycle quelque chose qu'il avait plutôt réussi dans les années 90, c'est-à-dire reprendre soit des légendes ou des histoires connues qui ont déjà été exploitées dans le cinéma de Chine populaire ou Hong Kong des années 60, et puis il le réactualise voilà, à sa manière. Et là, il le fait de manière vraiment brillante et jouissive, quoi. Et en plus de ça, c'est sûrement, enfin, c'est pas sûrement, c'est la meilleure 3D qu'on ait vue au cinéma depuis l'invention de la 3D.
Déjà, le deuxième détective D était assez impressionnant.
Ah ouais, mais là, il a passé le stade à un tel niveau que. Voilà, c'est-à-dire c'est aussi bien son attrait que son défaut. C'est que si vous voyez en 2D, c'est comme voir un film en Technicolor, je sais pas, Les Chaussures Rouges de Michael Powell, en noir et blanc. Vous perdez une grosse dimension. Bah là, c'est pareil.
Bon, moi, personnellement, j'ai sur Radio au langage de Godard pour la meilleure utilisation de.
Donc oui, en plus sur le papier, c'était sûrement le plus contraignant depuis qu'il est passé sous le bastion de la République de Chine, vu que c'est un sujet vraiment typique de propagande, parce que d'habitude il remaniait pas mal quand il prenait une légende, il bousculait pas mal une légende ou un personnage traditionnel qui reprenait à son compte, généralement il le bousculait pas mal. Là on peut imaginer qu'il avait pas beaucoup de marge étant donné le sujet et puis la production, et puis finalement c'est un de ses films les plus fous narrativement, vraiment c'est un film il transcende complètement le côté propagande par la folie visuelle et narrative, donc c'est vraiment très...
Faut savoir c'est que le bouquin à l'origine était pas du tout apprécié par le régime de République de Chine. C'est qu'après, quand ils ont soumis un certain nombre de titres pour faire créer les opéras voilà traditionnels, celui-là a été choisi, mais il n'y a aucun attrait de propagande derrière, c'est-à-dire que c'est juste des Chinois qui des soldats qui vont se battre contre des brigands, point, il n'y a pas de discours. Quand ils font mention comment dire de la guerre contre les Japonais dans un film de propagande, ils auraient forcément dit « Ah, c'est ça le japonais, on les a bien niqués ». Rien du tout, il n'y a pas du tout ce type de dialogue-là. Donc voilà, et quand il parle à la fin, en effet, de la réunion de famille et tout ça, c'est une tradition chinoise. Je veux dire, les Chinois, que ce soit dans leur pays ou ailleurs, c'est quelque chose qui est très important chez eux.
Donc, et voilà. Même ce côté-là, si on y voyait un côté tradition, il y a le deuxième générique qui fait que
ça donne voilà, l'impression. Exactement.
Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut bien... Si le film se termine, il faut attendre...
C'est pas une tradition nationaliste, c'est une tradition culturelle, c'est très différent.
Justement, je pourrais soutenir sur le côté politique du film, Tsuer, que se positionne bien contre quand même le régime en place. Déjà dans Détective 2, par des scènes cocasses, genre quand il fait le gouvernement enfin le royauté boire de la pisse, etc. Bon.
Même dans le premier, quand il lui prend la part, l'impératrice aussi à la fin.
Et dans La bataille de la montagne du Tigre, il fait pareil, sauf qu'il reprend un récit qui était encensé par le régime, par les opéras, justement comme il dit, et il propose au spectateur d'avoir sa propre vision de l'histoire. Enfin, en gros, c'est un étudiant chinois actuel, un jeune, qui fait face à des légendes, etc., et lui dit, et justement la deuxième fin lui dit d'avoir sa propre vision de l'histoire, de pouvoir imaginer lui-même et de se libérer de la version officielle. Parce que justement la fin est assez symbolique politiquement, parce qu'il te dit que c'est là où l'histoire s'arrête, mais la jeunesse peut réinventer sa propre histoire.
C'est la fiction qui reprend le pouvoir avec le deuxième générique. Quoi.
Alors en septième position, nous avons un autre film... chinois, dont on a déjà parlé en introduction, c'est Au-delà des montagnes de Jia Zhangke. Samir, je sais qu'il est. On sait tous maintenant qu'il est numéro 1 de ton top de l'année, toujours confondu. Qu'est-ce qui t'a bouleversé à ce point-là dans le film?
Ce qui m'a bouleversé, c'est que Jia Zhangke. C'est la simplicité qui m'a bouleversé dans ce film. C'est cette manière comme ça qu'il a de parler de la vie de cette femme à travers la Chine. Mais il a cette intelligence, comme il l'a toujours eu, de ne pas trop se reposer sur le symbole qui est la Chine et tout ce qu'il y a autour et les décennies qui ont pu, que ce pays a pu vivre. C'est vraiment de rester toujours concentré sur cette femme, sur ces trois étapes. J'avais lu un article, je ne sais plus de qui...
Il parlait aussi de la Chine à travers cette femme.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais lu un article comme ça qui le critique de cinéma faisait une comparaison avec, le film de Desplechin, Trois souvenirs de ma jeunesse. Et en fait, il disait que c'est drôle parce que ça aurait pu être ça, Jason Kay. C'est un peu trois souvenirs d'un personnage avec ses trois étapes. Et moi, ce qui m'a bouleversé, c'est que, en fait, à tout moment dans le film, on a l'impression que ce personnage est en train de dire qu'elle souhaite qu'aujourd'hui ça soit la même chose demain. Et c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est que on a toujours cette impression qu'elle espère qu'il y a quelque chose qui va se renouveler, qui va changer. Et nous on y croit aussi, même si on a comme ça quelques idées très négatives, mais on y croit. Et je trouve ça très beau, très bouleversant. Et puis surtout cette manière comme ça d'être au plus près des personnages, de nous livrer une histoire qui est catégoriquement universelle. Et après, il y a des choses très... Parler de ce film, c'est d'être extrêmement subjectif, me concernant. Et pourquoi ça m'a beaucoup parlé, beaucoup ému? Parce que, voilà, il y a un moment comme ça dans notre vie, il y a l'adolescence, puis ensuite, il y a cette jeunesse, quand on a 20-30 ans, puis ensuite on aspire à autre chose, une vie de famille, je ne sais quoi. Et ça m'a énormément bouleversé parce que j'avais l'impression de me retrouver comme ça dans ces trois étapes-là. Je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est peut-être que la condition humaine, c'est de croire que ce que l'on vit aujourd'hui, ce sera la même chose le lendemain, dans un côté très positif. Et finalement, c'est autre chose. Et le cinéma nous aide aussi à comprendre que ça peut être aussi autre chose. Et j'aime beaucoup maintenant ce que fait Jason Kay, parce que de plus en plus, comme ça, il va vers la simplicité, vers quelque chose de très épuré. En fait, le scénario devient un prétexte. Il s'intéresse de plus en plus au personnage, c'est-à-dire ce qu'il représente de chair et d'os. Enfin, il y a tout un truc comme ça. C'était vraiment un film qui m'a extrêmement bouleversé parce que j'avais l'impression qu'il me disait à chaque moment « Attends, mon gars, je suis pas là pour te vouvoyer. » Ouais, c'est un film qui m'a tutoyé énormément. Et je trouve qu'aujourd'hui, il est important peut-être que le cinéma nous donne aussi un miroir déformant sur la société. C'est important. Et je pense que Jason Kay est vraiment l'un des plus grands cinéastes contemporains aujourd'hui. Et c'est ça qui... Après, il faudrait... C'est ce qui est marrant avec ce film, c'est que j'ai besoin aussi de vous écouter, parce que d'autres idées peuvent venir.
Moi aussi, j'ai adoré aussi le Jason Kay, c'est parce qu'il y avait... j'ai adoré ses précédents films aussi, mais quelque chose qu'il n'y avait pas dans ses précédents films, c'était... Cette mise en scène ou même cette tendance romantique qu'il a dans le cinéma, parce que c'est la première fois, par exemple, je crois, qu'il fait des caméras qui bougent dans la scène. D'habitude, c'est tout le temps des plans fixes. Et là, sa caméra bouge.
Il avait commencé dans justement à avoir des mouvements sur les.
Mais là, justement, dans les dialogues, etc., là, la caméra bouge, se déplace, et c'est un mouvement assez sensuel qui, justement, moi, que j'aimais bien. Chez Wong Kar-wai, des choses comme ça, et qui est très romantique. Et justement, il reprend un peu cette idée. Et même dans le film, il y a des moments fugaces comme ça, avec des images qu'on comprend pas très bien, avec des paroles, une voix off qui dit des choses, etc. Et cette version romantique, plus une espèce de lecture politique de la Chine, pour moi, le film transcende l'histoire d'amour pour arriver à une dimension universelle, et surtout la partie dans le futur, justement. Et parce que je l'ai vu avec un ami taïwanais, et il m'a dit que justement cette partie là serait pas acceptée en Chine, etc., parce que le fait qu'il couche avec une femme plus vieille, ça va trop loin, etc., et que Jason Kay transcende toutes les causes, etc., pour parler à tout le monde, en fait.
Puis c'est un film qui marche, qui fonctionne aussi énormément. Enfin, l'histoire fonctionne. Pardon, Gaël.
Tu parles très bien du film.
Je te parle d'un truc. Enfin, il y a un truc, moi, qui m'a aussi. C'est la force du film repose aussi sur des détails, sur des objets. Il y a cette scène très belle, si je ne me trompe pas, où Tao, le personnage féminin, offre à son fils, je crois, un iPad, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Et
lui offre les clés.
Et aussi les clés
chez lui.
Et voilà. Pour lui dire que tu seras toujours le bienvenu chez moi. Enfin voilà, il y a cette dualité comme ça entre, faut dire ce qu'il y a, entre d'un côté le capitalisme et puis de l'autre peut-être une vie un peu plus simple, pas traditionnaliste, mais une vie, allez, comme dirait Hawks, à hauteur d'homme, quoi, à hauteur de femme, à hauteur des personnages. Et c'est ces petites choses-là, il n'insiste pas trop là-dessus, mais elles sont, enfin, c'est des choses fondamentales. Et c'est ce qui fait que ce film tutoie le spectateur. C'est des petites choses comme ça.
Gaël. Oui, non, mais, enfin, Samir en parle très bien, vachement bien. C'est juste que, enfin, finalement, moi, c'est un cinéaste que j'ai découvert sur le tard. J'ai appris enfin à la connaître et j'ai beaucoup, enfin j'aime beaucoup enfin, sa façon de rejeter autant le système chinois pseudo-maoïste à la con et également le capitalisme enfin, qui fait la ravage un peu partout. Et c'est vrai qu'avec Touch of Sin et au-delà des montagnes. Il va vraiment vers un cinéma assez commercial enfin, par rapport à ce qu'il y a avant. Et avec une ambition de virginité. Et particulièrement dans celui-ci, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est sur la notion des codes de langage et sur le fait que la Chine étant maintenant quasiment la première puissance mondiale quasiment, doit aussi s'arranger avec le fait que l'anglais est également la langue la plus puissante.
Ça revient souvent d'ailleurs ces derniers temps sur plusieurs œuvres,
ouais.
L'espèce d'hégémonie de la langue anglaise qui aurait tendance à faire par rapport à certains, il y a une réflexion qui amène là-dessus, à bouffer un peu la culture des autres pays, bouffer culturellement les langues et la culture des autres pays, en fait. Voilà, c'est une espèce de courant de pensée.
Tu penses à quel film par exemple, moi je pense à...
Pas du tout un film, en fait, mais je sais pas si quelqu'un... je pense à un jeu vidéo qui est sorti il y a pas très longtemps, qui s'appelle Metal Gear Solid 5, où c'est carrément au centre du jeu, en fait, espèce de culturellement de quoi tu sais jouer ou pas du tout.
Non, mais j'adore moi, mais je peux pas jouer aux jeux vidéo.
En gros c'est pas que
t'es puni de jeux vidéo.
Hein, on va pas faire
non, 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 mais non, c'est juste voilà, c'était juste rapidement comme ça, c'est vraiment un truc qui revient. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va revenir de plus en plus, en fait, espèce de réflexion autour de la langue anglaise et le fait que ce soit la plus grande langue, enfin, la langue la plus utilisée par les puissants au monde.
Après, ça n'a pas forcément un discours critique, parce que eu un film de donc Song Soo, j'en parle parce qu'il n'est pas dans le top 10, Hill of Freedom, qui est effectivement en anglais parce que c'est un japonais qui est en Corée, et c'est aussi une manière alors même pas de faire un film international, mais pour les personnages de se comprendre et d'avoir un espèce de code qui est commun. Donc il n'y a pas forcément un discours critique dans l'utilisation non plus de...
Mais là, dans le Jadanke, j'ai toujours... Ce qui est assez intéressant, c'est que vers la fin, en fait, les générations ne se comprennent plus, parce que y a une volonté des parents de faire en sorte que leur progéniture aille avant et puisse s'en sortir en ayant la connaissance de l'anglais, mais qui devient quasiment la seule langue que les plus jeunes connaissent et ne peuvent plus comprendre leurs parents. Et je trouvais ça vachement intéressant, quoi. Et ce qui est donné, enfin, visuellement, ce changement de code est aussi fait par le changement de format. Parce que niveau technique, je suis un peu nul, mais il y a trois formats différents, et tout ça fait sens, et moi ça m'intéresse vachement.
Alors donc c'était notre 7e film, Au-delà des montagnes, de Jadonke. C'est pas pour dénigrer notre classement.
On va parler des Petrol Boys aussi, des Petrol Boys.
Go West, forcément.
C'est et de Sellier, d'ailleurs, surtout, oui, qui est très importante également dans le film. voilà, c'est pas du tout pour dénigrer notre top 10, mais en 6e position, donc mieux que Au-delà des montagnes, on a Hardé de Kim Song-ho, qui est plutôt sympa, mais qui semble un petit peu mineur par rapport à tout ce qu'on a dit. Donc qui a défendu et qui a voté Justin pour Hardé?
J'ai voté, mais je l'ai mis après.
Elle vient.
Moi, je l'avais mis après Au-delà des montagnes, mais il était quand même dans mon top.
Je me demande pourquoi il est 6e, en fait.
Justin.
Mais pourquoi t'as fait 6e?
Justin.
Comment t'as fait tomber plus?
C'est la preuve que c'est tout à fait objectif, puisque moi j'aurais mis bien
Je pense en fait que plus de gens avaient vu Hardé qu'Au-delà des montagnes quand on a fait le top. tout simplement.
C'est vrai qu'il est sorti en décembre.
Oui, puis il était passé en festival.
Il était uniquement à Cannes.
Après, donc à la reprise au Forum des Images.
Les festivals.
Et puis, on a pu quand même bien le voir.
En tout cas, Ardé figure tout de même en 6e position. Et Justin, tu l'as défendu et beaucoup aimé.
Donc, en fait, c'est un film, un polar, donc qui renouvelle, parce qu'on avait un problème quand même de renouvellement de génération dans le cinéma coréen avec tous les grands auteurs qu'on a découvert depuis les années des années 2000. Donc là, ça a amené un renouvellement là-dessus. Autant d'ailleurs dans le niveau du réalisateur que du ton, parce que ça avait fini par... cinéma coréen, les polars notamment, ça avait fini par être très très codifié dans le côté sanglant, glauque, dépressif, jusqu'à le point de non-retour, je pense, J'ai rencontré le diable, quoi, qui est un excellent film, mais on ne peut pas aller au-delà au niveau du polar coréen nihiliste. Et là, ça amène quand même autre chose au niveau de la narration, côté ludique, le côté jeu du chat et la souris, et tout en restant assez lumineux, assez positif, ça change quand même pas mal l'imagerie du polar coréen. Après, peut-être le mettre si haut, il est peut-être un peu haut, mais moi j'ai beaucoup aimé, et puis franchement, non, ça amène une nouvelle donne.
On le descend quelqu'un. On va le descendre subjectivement. Quelqu'un d'autre a mis Ardé dans
ce film?
Si j'étais occupé que de film asiatique, j'aurais effectivement mis. Enfin, vraiment, c'est un des films qui m'a le plus marqué cette année. Et en fait, ça m'a fait penser au film des Far Cohen.
C'est vrai, c'est avec ce côté
le côté complètement loose, et polar, loose, et drôle.
C'est le meilleur méchant de l'année, je crois, que c'est le méchant de l'année.
C'est assez jouissif comme film.
Ensuite, Vétéran, méchant de l'année, quand même aussi.
Ah oui. Vétéran, on va peut-être en parler dans la dernière partie.